VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bio à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 22 novembre 2022. Au Tchad, une dizaine de militaires ont été tués dans une nouvelle attaque djihadiste. À RDC, les combats se poursuivent entre les rebelles du M23 et l'armée. L'Ouganda annonce un millier de soldats sur place. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa en tête face à un ex-ministre pour la direction de l'ANC. La Turquie est appelée à la retenue dans ses opérations en Syrie. Coupe du monde de football, le Danemark tenu en échec par la Tunisie 0-0 et l'Arabie Saoudite crée la surprise en battant l'Argentine 2-1. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Et l'actualité, c'est d'abord et avant tout la Coupe du Monde. Bonsoir Eric Manirakiza.
Bonsoir Jean-Roger.
Les Tunisiens ont parfaitement contrôlé. Le maître a joué danois. La défense tunisienne a été tout simplement admirable. Le dévouement pour contrer le jeu du Danemark qui n'a pas réussi à forcer la décision 0-0. Eric Manirakiza.
Son point arraché Jean-Roger au terme est d'un match tactique et très intense et satisfait sûrement plus les aigles de Carthage qui ont affiché un visage plus réjouissant que les Danois apparus bien hésitants. Agressifs et très en rythme, les Tunisiens portés par un stade acquis à leur cause en raison notamment de l'importance de leur communauté au Qatar ont effectivement sauté à la gorge de leur adversaire dès les premiers instants. Les Scandinaves n'avaient jamais perdu en Coupe du Monde contre une équipe africaine. Les Tunisiens n'avaient jamais battu une sélection européenne. Et bien voilà, 2022 n'a pas dérogé à ces règles. Le Danemark et la Tunisie sont les prochains adversaires des champions du monde français dans le groupe 2 du Mondial 2022.
Les Argentins et leur guide Lionel Messi se sont égarés dans le désert qatari avec une invraisemblable défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite 2-1. Une première sensation au Mondial et un avertissement sérieux pour les favoris, n'est-ce pas Eric?
Tout à fait Jean-Roger, les spectateurs ont assisté à la mi-journée à l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la compétition. Le septuple ballon d'or Messi, icône planétaire, vaincu et de fort belle manière, il faut le dire, par les modestes faucons verts saoudiens, 51e nation mondiale dans le classement FIFA. À Riyad et à Doha, les Saoudiens ont célébré cette victoire sur l'Argentine par une danse de joie. Suivez.
Nous ne nous attendions même pas à la moitié de tout cela. Mais allez, nous avons dominé Messi avec l'Argentine. C'est notre pays d'origine. Le Qatar est comme l'Arabie Saoudite.
Je serais quand même content de sortir du match en perdant. Ce qui était important pour nous, c'était de jouer au football, vous savez. Donc, nous sommes heureux d'avoir non seulement joué, mais aussi d'avoir joué contre l'une des meilleures équipes du monde. Et nous sommes très heureux d'avoir enfin gagné.
Je ne m'y attendais pas. Aucun des Saoudiens ne s'y attendait. Mais ils l'ont fait.
L'Arabie Saoudite aujourd'hui a donné un grand exemple. Le Qatar, en accueillant cette Coupe du Monde, a donné un très grand exemple pour le monde que l'avenir est là et que nous sommes l'avenir et que nous ferons changer l'avenir.
Notre peuple aime le football, nous l'adorons, nous prenons soin de nos infrastructures et nos ligues s'améliorent, rivalisant avec des ligues européennes. C'est clair pour tous les analystes, nous avons toutes les capacités et les infrastructures pour accueillir la Coupe du Monde en 2030.
C'est un sentiment indescriptible, c'est un moment historique pour l'équipe nationale. Je n'avais pas l'habitude de faire confiance au choix de l'entraîneur. Mais il s'avère que j'avais tort. Merci et félicitations à tous les Saoudiens. Et merci pour tous les efforts de l'équipe nationale.
C'est une grande réussite. Ils ont très bien joué. On ne s'y attendait pas. Ils ont fait un excellent travail. C'était formidable.
Jean-Roger, vous pouvez l'imaginer, côté argentin, désagréable surprise.
Ce n'est pas ce que l'on attendait. Il me semble que l'Argentine a un peu surjoué le match. Et puis aussi un peu de malchance. L'Arabie Saoudite a marqué deux grands buts, donc tant mieux pour eux.
De la colère, surtout parce que le match était clairement à nous. Je veux dire, ils sont passés deux fois, les deux fois c'était un but. Donc c'était une terrible déception.
Nous attendons avec impatience le match de samedi contre le Mexique et le match final contre la Pologne mercredi. Ce n'est qu'un début donc. Félicitations au peuple saoudien qui a su atteindre le but à deux reprises et marquer deux buts.
Lionel Messi a aussi réagi. C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal, a reconnu Messi. Mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique samedi pour le deuxième match de poule, a-t-il déclaré en zone mixte. Voilà Jean-Roger Billon qui contrarie l'entrée en matière de l'Albiceleste, victorieuse de la Copa América 2021 et arrivée à Doha avec une solide étiquette de favorite au sacre. Ce revers inattendu qui va contraindre l'Argentine à cravacher dans le groupe C, mais aussi fin à sa série d'invincibilité après 36 matchs topés à une longueur seulement du record de l'Italie championne d'Europe.
Eric, dans la troisième rencontre, la Pologne a été neutralisée par le Mexique.
Eh oui, le diable n'est pas sorti de sa boîte. Robert Lewandowski a été contenu par les Mexicains et leur gardien qui a arrêté son pénalty tenant en échec la Pologne. 0-0 dans le groupe C du Mondial 2022. Les Mexicains, animés par la Grinta, qui caractérise souvent les équipes d'Amérique du Sud et Centrale, ont pressé haut et se sont souvent portés en nombre vert. Les buts gardés polonais en vain. C'est donc l'Arabie Saoudite qui a pris la tête de son groupe à la surprise générale. Jour férié en Arabie Saoudite pour cette
victoire. Spécial Qatar 2022, signé Eric Manirakiza. La suite de ce journal, une dizaine de militaires ont été tués et plusieurs autres blessés ce mardi par des djihadistes qui ont attaqué un poste de l'armée dans l'ouest du Tchad, selon le porte-parole de la présidence, Brat Mahamat. Les détails avec Nani Talami.
L'attaque a été perpétrée au petit matin près de Ngoubwa, dans la région du lac Tchad, précise le communiqué de Brat Mahamat. Une unité de l'armée, dépêché en précurseur pour installer un poste avancé dans l'île de Bukatulorom, a été prise à partie par des éléments de la secte Boko Haram. La dizaine de morts et les décès sont tous des éléments des forces de défense, ajoute le porte-parole de la présidence tchadienne. Le lac Tchad est un endroit où Boko Haram et sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, s'en prennent régulièrement aux armées et aux civils aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria. Fin octobre, Boko Haram a tué des pêcheurs nigérians et en a kidnappé d'autres sur la rive nigérienne du lac Tchad.
Trois casques bleus ont été blessés par l'explosion d'une mine dans le nord du Mali, a indiqué aujourd'hui la mission de l'ONU. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des soldats. 245 attaques aux engins explosifs improvisés et aux mines ont été enregistrées en 2021 et 134 en 2022. Ces attaques ont fait 175 morts, majoritairement des soldats, mais aussi des civils. Au Ghana, sept États d'Afrique de l'Ouest ont entamé aujourd'hui une réunion avec plusieurs dirigeants européens en vue d'accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation des violences djihadistes au Sahel vers les côtes du golfe de Guinée. Organisé à Accra, ce sommet intervient après le rapprochement entre la junte militaire au pouvoir et Moscou au Mali. Dans le cadre de l'initiative d'Accra, les présidents du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que des dirigeants du Niger, rencontrent des représentants de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et de la France. Et dernière nouvelle, l'Allemagne a décidé de commencer à retirer ses troupes du Mali à compter de l'été 2023, une opération qu'elle compte achever d'ici mai 2024. Dans l'est de la RDC, des habitants sont pris entre les tirs de l'armée et des rebelles du M23. De nombreuses personnes fuient les bombardements, y compris le personnel de santé, selon des témoignages sur place. Nathalie Barge.
À peine une dizaine de patients sont soignés à l'unité de prise en charge du CICR à 30 km de Goma, car les blessés n'arrivent pas à traverser la ligne de front sur la Nationale 2. Si un couloir humanitaire est ouvert, beaucoup de blessés vont sûrement arriver, prévient Anne-Catherine Muller, responsable du service chirurgie. La situation est aggravée par le pillage de certaines structures de santé où les médicaments ont été volés et le personnel est en fuite. Les rebelles du M23 se sont emparés de larges portions de territoire au nord de Goma et s'affrontent depuis plusieurs jours à l'armée congolaise qui s'est repliée à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Nord Kivu. Des combats ont également lieu au nord-est vers l'Ouganda ainsi qu'à l'ouest en direction du territoire de Masisi. Après une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi hier à Kinshasa, le président kényan William Ruto a déclaré que la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la RDC a pour mandat d'imposer la paix aux nombreux groupes armés récalcitrants. 900 soldats kényans vont contribuer à cette force. Les premiers sont déjà arrivés à Goma. Et l'Ouganda a annoncé ce mardi envoyer un millier de soldats d'ici la fin du mois dans le cadre de cette force est-africaine.
Et toujours dans l'est de la RDC, 16 personnes sont mortes dans des éboulements après une pluie diluvienne dans la nuit de lundi à mardi à Kamituga, dans le sud Kivu, selon Tristan Mukamba Mwanga, président de la nouvelle société civile de Kamituga. La plupart des maisons écroulées ou englouties étaient en planches et bâties sur des sites non autorisés à accueillir des habitations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est largement en tête face à son ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize, seul candidat pour la présidence de l'ANC avant la conférence du parti au pouvoir. Le point avec Rosine Monezero.
Cyril Ramaphosa, 70 ans, a obtenu 2037 nominations dans les sections du parti, ce qui le place largement en tête de son rival Zweli Mkhize, 66 ans, qui a obtenu 916 nominations, a précisé l'ANC lors d'une conférence de presse à son siège à Johannesburg. L'ANC, au pouvoir depuis 1994, se réunit en conférence du 16 au 20 décembre pour élire ses dirigeants. Celui qui sera vainqueur sera vraisemblablement le chef de l'État à l'issue des élections générales de 2024 si le parti remporte le scrutin. La nomination de M. Ramaphosa, qui briguerait un second mandat, intervient alors qu'il est accusé d'avoir caché d'importantes sommes d'argent liquide dans une de ses propriétés en février 2020, nourrissant des soupçons de blanchiment et corruption, ce qu'il nie vigoureusement. Le Parlement se réunit le 6 décembre pour décider s'il devra répondre de ces accusations.
L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, 64 ans, ne s'est pas présenté aujourd'hui devant la Cour de sûreté de l'État qui le juge pour haute trahison, estimant la procédure biaisée. Ses 5 avocats n'y ont pas assisté, préférant tenir une conférence de presse à Moroni.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington et Moscou ont appelé Ankara à la retenue après les menaces répétées du président turc Recep Tayyip Erdogan de lancer une opération terrestre contre les positions des combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Michel Joseph.
Nous allons survoler les terroristes pendant quelques jours avec notre aviation et nos drones. Si Dieu veut, nous allons les éliminer bientôt avec nos soldats, nos canons et nos chars, a lancé mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours dans le nord-est du pays. L'aviation turque a lancé dimanche l'opération Griffe Épée, une série de raids aériens contre 89 positions kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie qui ont fait près d'une quarantaine de morts en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les États-Unis et la Russie ont appelé à la retenue. Les deux pays sont impliqués dans la guerre en Syrie. Lundi, Berlin et Paris avaient déjà appelé Ankara à agir de façon proportionnée. M. Erdogan menace depuis le mois de mai d'une nouvelle offensive sur les territoires kurdes. L'attentat du 13 novembre à Istanbul, qui a fait 6 morts et 81 blessés, attribué par Ankara aux combattants kurdes, a envenimé la situation.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui le durcissement de la répression en Iran où plus de 300 personnes, dont des enfants, ont été tuées depuis le début des manifestations en septembre dernier. Et puis le bilan du tremblement de terre qui a frappé lundi la ville indonésienne de Cianjur dans la partie occidentale de l'île de Java s'est alourdi à 268 morts et 151 personnes sont toujours portées disparues, tandis que le nombre de personnes déplacées a atteint 58 000.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le gouvernement malien vient de mettre fin avec effet immédiat aux activités de toutes les ONG financées par la France. Cette décision fait suite à la suspension par la France de l'aide publique au développement. Comment les populations réagissent à cette décision? Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Cette décision du gouvernement malien s'explique, selon son communiqué, par l'atteinte à la souveraineté du pays par les autorités françaises. Mais la décision du gouvernement risque, selon Lassine Sanou, citoyen malien, de mettre au chômage de nombreux jeunes qui travaillent dans ces ONG.
Ça ne va pas rester sans conséquence, parce que compte tenu de la situation entière du pays, ces ONG emploient des milliers de Maliens, quand même, il faut les reconnaître quand même. Donc, en interdisant tous ces ONG quand même de travailler ici, c'est nous qui va envoyer beaucoup de moyens au chômage quand même. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne occasion quand même. Vraiment, il fallait penser vraiment à nos compatriotes qui travaillent dans ces ONG pour nourrir leur famille quand même.
Pour le journaliste Badou Koba, cette décision des autorités est une réponse évidente à la décision des autorités françaises et s'explique par le climat déjà assez tendu entre les deux pays.
C'est les autorités françaises qui ont bel et bien dit que l'Agence française de développement va suspendre sa coopération avec le Mali. Au-delà, toutes les ONG qui sont financées par la France, ces ONG ne bénéficieront plus de financement. Mais la France avait un peu essayé de mettre de l'eau dans son vin en disant que certaines ONG locales vont bénéficier de certains financements dans le cadre de l'humanitaire.
Mais Badou Koba reconnaît cependant que cette décision risque d'avoir des conséquences sur la situation des déplacés qui dépendait en majorité de l'assistance de ces ONG.
Ça va aggraver la situation des réfugiés. Vous savez que depuis 2012, le Mali est confronté à une rébellion armée, civile et d'actes terroristes. Donc cela a entraîné un déplacement massif de population. C'est une question de souveraineté et qu'au nom de l'humanité, la France ne devrait pas suspendre cette aide.
Le sentiment général, en tout cas celui perceptible sur les réseaux sociaux, est que le Mali et la France puissent très vite accorder leur violon autour de cette question qui risque de faire de nombreux mécontents. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'activité touristique dans l'extrême nord du Cameroun est durement frappée par l'insécurité, notamment les exactions du groupe Boko Haram. Les agences de voyage, les guides touristiques, les populations locales et les hôteliers en paient le plus lourd tribut. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jurentap.
La vie est devenue très dure pour nous, les guides touristiques. Sinon, avant, ça donnait.
Vendi Nicolas exerce aujourd'hui le métier de transporteur dans la ville de Maroua. Il y a 8 ans, il travaillait comme guide touristique pour une agence. Cette dernière a fermé ses portes à la suite des exactions de Boko Haram dans certaines localités de la région de l'extrême nord. Les pics de Rumsiki étaient la destination privilégiée que Nicolas Vendi vendait aux touristes.
Tous les hôtels qui sont à Rumsiki sont devenus bizarres. Il n'y a pas d'entretien puisque personne ne peut travailler pour ne rien avoir. On a conçu, il y a des gens qui ont investi à Rumsiki pour mettre les touristes à l'aise. Mais aujourd'hui, tous ces hôtels-là, il n'y a personne qui vient, même les Africains ne viennent pas. Peut-être pour avoir un client qui est de passage, peut-être, je peux dire, une fois ou deux fois par mois. Et ce sont des Africains. Ça ne suffit pas.
À Ouaza, Maga, Pousse, Kapsiki et Rumsiki, fleurons du tourisme de la région de l'extrême nord, les touristes pouvaient y voir des animaux sauvages, des hippopotames, mais aussi des cases au but. L'activité a engrangé des dividendes au secteur de l'hôtellerie. Luc Boumiem, directeur de l'hôtel à Maroua, affirme que l'activité est en berne depuis que les autorités ont déclaré la région zone rouge.
On ressent un coup, parce que vous savez, c'est une zone qui regorge beaucoup de sites touristiques, voilà, qui étaient d'ailleurs beaucoup sollicités, et c'est une petite région. Voilà, on voit que les hôtels ne vivent que des touristes, surtout étrangers, parce que aussi le tourisme interne. Donc pour l'instant, ce n'est que de ça que nous vivons, quoi.
Pour relancer le tourisme dans cette partie de Cameroun, le gouvernement a opté pour la valorisation du tourisme local. Boubacari Vindiedou, chef service départemental de promotion du tourisme et des loisirs dans le département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord.
Mais avec la sécurité, le service des billes, l'armée qui fait un grand effort, on arrive quand même à amener des gens nos locaux, à les inciter à faire des pique-niques, des visites, et faire en groupe pour aller visiter et rentrer, même les week-ends. Et beaucoup de gens sont intéressés. Nous organisons aussi des visites au niveau des établissements scolaires. On incite les jeunes à aller découvrir déjà à consommer local. C'est les chaussures, à aller visiter des locaux. Nous avons les pics de Mindif, il y a dans le Diamaré. Nous avons aussi l'Amida de Bogo. Et justement, c'est là-bas que nous sommes allés pour la journée internationale du tourisme. On a eu un accueil avec les postes des chevaux. Le nouveau Lamida nous a bien reçus. On a organisé des festivités touristiques qui étaient vraiment énormes jusqu'à dans la soirée. Donc, je peux dire en conclusion, nous avons déjà des sites touristiques dans nos marchés. Nos marchés nous offrent déjà des produits locaux que nos populations consomment très bien. Et ça fait déjà vivre ce secteur. On a des sites touristiques comme Ouaza qui sont visités de temps en temps. Les pics de Mindif, on y va aussi. Et il y en a plein d'autres. La liste est vraiment énorme.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas espoir.
En 2013, 7 touristes français, dont 4 enfants, avait été enlevé par des hommes armés dans la région de l'extrême nord, puis amené au Nigeria, où ils ont été libérés après 2 mois de détention. Depuis lors, très peu de touristes étrangers osent s'aventurer dans la région. Emmanuel Zumtap, Yaoundé, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sport peut-il aider à promouvoir le développement économique des pays africains? Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5%, alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques? Quel est l'impact du sport dans les sociétés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Bénin est le plus grand exportateur de coton du continent. Il a construit un site industriel pour passer des exportations brutes à la transformation en produits finis. Les militants écologistes affirment que la transformation locale permettra de réduire les émissions dues au transport maritime qui contribue au changement climatique. C'est un reportage de Henry Wilkins dans la ville de Djibé. Le récit est de Thierry Kaoré.
Au Bénin, un nouveau parc industriel prend forme et se veut un modèle de production locale tout en réduisant les émissions mondiales. Bien que le chantier soit toujours en cours, la zone industrielle de Glodjigwe d'Arise transforme déjà des noix de cajou et fabrique des vêtements pour les marchés occidentaux. La fabrication des produits finis est une première au Bénin, principal exportateur de coton brut d'Afrique, une activité qui fournit des emplois à des habitants comme Marlène Kizikluno.
Je me retrouve heureuse dans ce milieu. Ce n'était pas chose ordinaire où on faisait la couture simple chez nous. Mon objectif, c'est que c'est de grandir dans la maison. Et voilà comment je suis là, ça va mieux.
Selon les économistes, les zones industrielles façonneront l'avenir de l'Afrique qui passe de l'exportation de matières premières et de l'importation de produits finis à la production locale. Si le continent veut développer sa propre production, cela signifie plus d'argent pour les économies africaines et des prix plus bas pour les consommateurs. Selon l'entreprise, transformer les matières premières localement est également bénéfique pour la planète. Écoutons son PDG, Letondji Beyeton.
La noix de cajou brute est transformée ici et au lieu d'aller au Vietnam puis retourner sur le marché européen et le marché américain pour être vendue aux consommateurs, rien que cela nous permet de réduire l'empreinte carbone. Ensuite, vous prenez le coton, c'est la même chose.
Selon la Banque mondiale, le transport maritime international est responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique. Les activistes s'accordent à dire que la réduction des expéditions de matières premières africaines destinées à être transformées à l'étranger permettrait de limiter ces dégâts. Faiz Abasso est membre du programme de transport et environnement, un groupe de campagne pour l'élaboration de la politique verte de l'Union européenne.
Nous avons tendance à produire des matières premières dans un pays, à les transporter dans un autre pour les transformer, et puis à les expédier dans un troisième pays pour vendre le produit fini. Si nous pouvons passer à une économie où les matières premières sont traitées plus près du point d'extraction, nous pouvons réduire considérablement les émissions inutiles.
Bien que l'impact global de la réduction des expéditions ne représente qu'une fraction des émissions mondiales, les partisans de cette initiative affirment qu'elle pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.
L'auteur de la fusillade dans une boîte gay de Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis, qui a fait 5 morts dans la nuit de samedi à dimanche, a été arrêté par 2 héros. Selon le maire de la ville, le tireur pourrait être poursuivi pour meurtre et crime motivé par la haine, selon le procureur de district. Les détails dans ce reportage de Cécilia Sanchez, le récit est de Rosine Monizero.
Après être entré dans ce club et avoir commencé à tirer sur la foule à l'aide d'un fusil d'assaut, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, a été maîtrisé par 2 clients. Les autorités ont confirmé lors d'une conférence de presse lundi soir l'identité de ces 2 sauveurs, qualifiés de héros, Richard Fierro et Thomas James. John Sathers est maire de Colorado Springs.
Je ne parlerai pas de la nature de ce qu'il m'a dit sur l'incident. Je n'ai pas rencontré quelqu'un ayant fait preuve d'autant de héroïsme et qui reste si humble à ce sujet. Il m'a simplement dit, j'essayais de protéger ma famille.
Richard Fierro, 45 ans, est un ancien militaire. Il raconte avoir attrapé le tireur par l'arrière alors qu'il se dirigeait vers la terrasse où des clients s'étaient réfugiés. Une fois le tireur au sol, Fierro lui a sauté dessus. Un acte héroïque, affirme John Sathers.
Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler à Richard Fierro, identifié comme l'un des 2 héros qui ont maîtrisé le suspect dans cette affaire et qui, à mon avis, et je pense la vie de toutes les personnes impliquées, ont sauvé beaucoup de vies.
Le crime motivé par la haine désigne aux États-Unis un acte dirigé contre une personne visée en raison d'éléments de son identité, comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap. Considéré comme une infraction fédérale aux circonstances aggravantes, il entraîne des condamnations plus dures. Michael Allen est procureur de la 4e circonscription judiciaire du Colorado.
Si nous avons suffisamment de preuves pour soutenir que les crimes ont été motivés par les préjugés, il est essentiel de l'inculper à ce titre. C'est important pour cette communauté, c'est important pour l'effort d'accusation de montrer pourquoi quelque chose s'est produit. Et s'il y a suffisamment de preuves pour soutenir cela, alors dans ce cas, lorsque nous arriverons au dépôt formel des accusations, nous allons absolument inclure ces charges.
Le procureur Allen a indiqué que l'enquête se poursuit et peut durer quelque temps. Anderson Lee Aldrich n'est pas encore officiellement inculpé, mais pourrait être poursuivi pour meurtre et crime de haine. Il risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.